Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. C'est pour moi toujours un honneur de pouvoir vous accueillir. Parce que le Seigneur nous dit de nous accueillir les uns les autres et je veux croire que vous passerez un bon moment avec nous dans la présence du Seigneur. Je vous propose de nous lever dans la prière, s'il vous plaît. Oui Seigneur, nous sommes heureux Seigneur de pouvoir être présent dans ta maison, Seigneur, avec les frères et les amis, Seigneur, et tous ceux qui nous visitent, Seigneur. Nous sommes heureux parce que, Seigneur, tu es l'objet, Seigneur, de nos retrouvailles, éternel Dieu. Et c'est toi, Seigneur, que nous voulons seulement élever, Seigneur, en ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, notre reconnaissance, Seigneur, de ce que tu as fait durant toute cette semaine, Seigneur. Merci, Seigneur, là où tu nous as aidés, Seigneur, à être un bon témoignage, Seigneur. Merci là aussi, là où tu nous as corrigés. Merci, Seigneur, d'être le Dieu, Seigneur, qui a soin de nous, qui a compassion aussi de nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci parce que tu es l'Éternel, parce que tu es tout-puissant, Seigneur. Parce que tu agis avec puissance, Seigneur, dans nos vies, éternel Dieu. Parce que sans cesse, Seigneur, tu ne cesses d'intervenir, Seigneur, et de nous parler. Et c'est ce Dieu que nous glorifions, le Dieu plein d'amour, le Dieu qui est digne d'adoration. C'est toi, Seigneur, que nous élevons. Merci encore, Seigneur, pour tes bienfaits. Que tu puisses permettre, Seigneur, que ce culte, Seigneur, te soit vraiment agréable. Que cette offrande, Seigneur, que nous déposons à tes pieds, vraiment soit de bonne odeur, Seigneur, devant toi, éternel Dieu. Que chacun ne puisse pas manquer, Seigneur, l'occasion de pouvoir t'exprimer, Seigneur, leur reconnaissance, Seigneur, et leur amour. Et vraiment, Seigneur, t'adorer simplement, Seigneur, en esprit et en vérité. Que ce matin, Seigneur, tu fasses éclater ta gloire. Nous voulons, Seigneur, que tu sois le premier, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. Et que tu prennes toute la place, vraiment, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vous propose d'élever le nom du Seigneur avec ce chant. Jésus, j'élève ma voix vers toi. Ce chant dit dans le refrain que même si tout basculait, même si la mort venait m'envahir, rien ne pourrait me séparer de ton amour. Et je veux croire que c'est le cas, en fait, pour chacun de nous. Nous louons Dieu selon sa parole, et sa parole est une vérité, et la vérité. Chantons ensemble. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Même si, Même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Et même si tout basculait, si la peur venait m'envahir, rien ne pourrait taire ton amour. Ton amour, ni les puissances du ciel, ni le présent, ni l'avenir, rien ne me séparera de ton amour. Jésus, j'élève ma voix vers toi, car tu as tout pardonné, tout ce qui m'accablait. Jésus, j'élève ma voix vers toi, pour moi tu as tout donné, oh je veux te louer. Amen Seigneur, oui Seigneur, nous voulons te louer, je veux te louer Seigneur. Car toi seul, Seigneur, a pris mon fardeau, Seigneur. Toi seul, Seigneur, et l'a porté jusqu'à la croix éternelle, jusqu'à la mort de la croix éternelle, Dieu. Et je veux te louer, Seigneur, pour cela, pour tes nombreux bienfaits, Seigneur, pour ton amour insondable, Seigneur. Ton amour démesuré, éternel Dieu. Ton amour, Seigneur, incompréhensible, éternel Dieu. Je veux te louer pour cela, éternel Dieu. Merci, Seigneur, d'être celui, Seigneur, qui m'entoure, Seigneur, de ton amour, Seigneur, qui m'inonde, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, encore rester, Seigneur, plongé dans ton amour, Seigneur. Oui, Seigneur, car mon âme a soif, Seigneur, de toi, du Dieu vivant, Seigneur, du Dieu très haut. Gloire te soit rendue, Seigneur, au nom de Jésus. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie. Inonde le désert de mon âme par la douce pluie du ciel. Mon âme rafraîchit quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Oh mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, guéri quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Quand ton onction m'envahit. Seigneur, mais comment ne pas t'offrir, Seigneur, toute notre reconnaissance, éternel Dieu. Comment ne pas te dire, Seigneur, que nous t'aimons, Seigneur, que nous sommes convaincus, Seigneur, que tu es le seul vrai Dieu, Seigneur, qu'il n'y a point d'autre qui soit comme toi, éternel Dieu. Vraiment, Seigneur, c'est toi qui as cette capacité, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, nous réconforter, éternel Dieu. Nous soutenir et nous corriger, Seigneur, comme tu le fais, Seigneur, avec tant d'amour, Seigneur. Nous pouvons seulement reconnaître, Seigneur, ta grandeur, éternel Dieu. Reconnaître, Seigneur, que tu es le seul Dieu sage, le seul Dieu souverain. Reconnaître vraiment l'immensité de ta grandeur, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, que nos cœurs et nos bouches débordent, Seigneur, de louanges devant toi, Seigneur, parce que tu es l'Éternel, parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous as sauvés, Seigneur, parce que tu as eu un regard favorable envers nous, éternel Dieu. Tu nous as regardés avec tellement d'amour, Seigneur, et nous as relevés avec tellement d'amour, Seigneur, et de puissance, éternel Dieu, que nous ne pouvons que déborder d'amour, éternel Dieu. Débordé de louanges, Seigneur, d'actions de grâce pour toi, éternel Dieu. Alors en ce matin, reçois encore notre reconnaissance, ma reconnaissance, éternel Dieu. Et je voudrais aussi t'élever, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur, que tu as ajoutés, Seigneur, à notre assemblée, à notre église, éternel Dieu, à notre famille. Merci, Seigneur, pour ces joyeux, ces précieux joyeux, Seigneur, que tu nous donnes, éternel Dieu. Que tu puisses encore, Seigneur, permettre que ces enfants grandissent, Seigneur, avec l'amour de ta parole, Seigneur Dieu. Que ce ne soit pas quelque chose de littéraire, Seigneur Dieu, ou complètement théorique, éternel Dieu, mais que ce soit que ça fera une vie, Seigneur, en eux, éternel Dieu. Qu'ils soient vraiment attachés à toi, éternel Dieu, et qu'ils ne cessent, Seigneur, de te louer. Nous voulons vraiment, Seigneur, qu'à travers, Seigneur, le ministère, Seigneur, des monitrices, éternel Dieu, que tu puisses faire se lever des vocations aussi au sein de ces enfants, éternel Dieu. Que ces enfants deviennent des serviteurs vraiment accomplis, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Qu'ils soient des lumières, Seigneur, dans leur foyer, éternel Dieu. Qu'ils soient des lumières à l'école, éternel Dieu, auprès de leurs amis, éternel Dieu. Qu'ils soient des personnes de référence à travers ce monde, éternel Dieu. Qu'ils puissent même, durant leur jeune âge, Seigneur, impacter, Seigneur, leur entourage. Parce que, Seigneur, tu brilleras, Seigneur, parce que tu brilles dans leur cœur, éternel Dieu, dans leur vie. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, pour ces enfants, Seigneur. Alors, en ce matin, nous te demandons, Seigneur, de bénir aussi, Seigneur, leur culte, Seigneur. C'est la rentrée pour eux, éternel Dieu, après ce temps de congé, éternel Dieu, qu'ils soient dans la joie, Seigneur, de se retrouver avec leur monitrice et d'apprendre encore de toi. Nous les portons auprès de ton trône, éternel Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais vraiment encourager les enfants et les parents à laisser leurs enfants partir avec l'école du dimanche, avec les monitrices. Et dire aux enfants que vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui et que c'est un moment de joie à chaque fois. Donc n'hésitez pas à y aller, même si c'est dur de laisser maman et papa. Quant à nous, je voudrais encore nous inviter à élever notre Seigneur. Je voudrais qu'aujourd'hui, que nous puissions éclater en louange et que vraiment, que nous puissions apprendre aussi à simplement dire merci. La louange aussi, c'est également dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Je te loue, je te célèbre pour tes bienfaits, pour ce que tu as fait pour moi. Alors, si vous n'avez pas encore le cœur à louer Dieu, ben, le chant va vous inviter à louer Dieu. Hein? Ce sera comme une prière, ce sera votre prière. On dit, Seigneur, mais revêt-moi, Seigneur, de ta louange. Donne-moi vraiment cet habit de fête, de joie, Seigneur. Que tu puisses me donner un manteau de joie. Parce que le Seigneur nous donne de la joie, mais de la joie en abondance. Je ne sais pas si vous le croyez ou pas. Amen. C'est bien, vous êtes encore là. Hein? C'est cool. Voilà, l'Église est là en 2020. C'est bien. Je nous invite à vraiment louer Dieu. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange. Alors, vous avez le droit, en fait, si vous louez Dieu, vous avez le droit de taper des mains. D'accord ? Vous avez le droit de taper des pieds. Vous avez le droit de pousser des cris de joie aussi. Hein ? Vous avez le droit de vous réchauffer ensemble. Ce sont des chants très connus. Alors, donc, je sais que vous allez faire sortir vos plus belles voix pour pouvoir chanter ce chant. Amen. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange. Donne-moi ton plus bel habit. Ainsi je me tiendrai devant toi avec ce manteau de joie. Revêt-moi, Seigneur. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange. Donne-moi ton plus bel habit. Ainsi je me tiendrai devant toi avec ce manteau de joie. Je me réjouirai en ta présence, je chanterai l'honneur de ton nom. Je danserai de joie pour toi, mon Dieu, car tu me remplis de bonheur. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange. Donne-moi ton plus bel habit. Ainsi je me tiendrai devant toi avec ce manteau de joie. Je me réjouirai en ta présence, je chanterai l'honneur de ton nom. Je danserai de joie pour toi, mon Dieu, car tu me remplis de bonheur. Revêt-moi, Seigneur, de ta louange. Donne-moi ton plus bel habit. Ainsi je me tiendrai devant toi avec ce manteau de joie. Amen. Amen. Je ne vous sens pas encore là. Il faut encore louer. Il faut encore pousser encore plus de cris de joie. Alors, on va encore. Est-ce que vous êtes prêts encore à louer le Seigneur? Est-ce que notre Seigneur est digne d'être célébré? Amen. Amen. Ben, nous allons pouvoir encore l'élever. Célébrer Jésus. Célébrer lui qui est ressuscité. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Ressuscité, ressuscité. Il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrer, célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Ressuscité, ressuscité. Il est vivant, il vivra à jamais. Ressuscité, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Oh Jésus. Gloire à toi Seigneur. Merci Seigneur. Oh Jésus.
Je bénis encore Seigneur la présence du serviteur de Dieu, le pasteur de Moukoulaï et sa famille et l'enseignement qu'il nous a donné Seigneur dans Daniel Seigneur. Merci Seigneur parce que Seigneur nous devons croître. Avoir le vie. Et je réalise, Seigneur, que c'est un message très fort. C'est un message très puissant. Parce que Daniel, c'est un prophète de la double prophétie comme Zacharie, parce qu'il a prédit l'arrivée et le retour de Jésus. C'est pour ça que, Seigneur, à travers ce message, Seigneur, ce message nous concerne tous. Moi, j'ai été percutée, j'ai beaucoup compris, Seigneur. Je réalise combien tu es bon parce que c'est ton peuple. Israël, ton peuple, Seigneur, que tu as aimé. Et tu as dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix, observe et pratique les commandements, tu auras la supériorité sur les nations. Et le mal a été détruit. Et Daniel a été retardé. Et aussi, Seigneur, c'est ici dit dans Naaman de Saul, l'esclave. Naaman a eu la vie. Il a eu la victoire physique, il n'a pas eu la victoire. Il a eu la victoire militaire, mais pas spirituelle. Parce qu'il avait la tête de la lettre. Et c'est le Dieu de l'esclave qui l'a mené en captivité. C'est ce Dieu-là qui a délivré, qui a sauvé l'âme. C'est pour ça que, Seigneur, nous aussi, Seigneur, c'est notre héritage, Seigneur. Que des fois, nous ne réalisons pas, Seigneur, que tu as du prix à nos yeux, Seigneur. L'œil de l'Éternel est dans nos vies, Seigneur. Que le mal, le malheur, la persécution qui existe, mais nous devons rester fidèles selon les promesses que Dieu nous a données, Seigneur. Malgré ce qui se passe dans ce monde, tout ce que les menteurs, mensonges, depuis la naissance, c'est écrit dans Psaume 58, 4, 5, le pervers, le menteur et ceux qui sont pervertis depuis la naissance, ce sont eux qui procurent le mal. Mais Seigneur, nous appartenons. Et il a dit que ni les dominations dans la première chanson que nous avons chantée, rien ne va nous séparer de Dieu. L'amour de Dieu ne nous séparera jamais parce que nous sommes ancrés en lui, Seigneur. Et aussi, Seigneur, dans la chanson que nous avons chantée, Seigneur, tu es là, Seigneur. Nous avons reçu l'onction de connaissance dans 1 Jean 2, 20 de celui qui est saint. Et cette onction nous enseigne des choses. Merci, Seigneur, pour ton héritage, pour nous, tes peuples, Seigneur, pour nous avoir mis à part. Et pour tous les enseignements que nous recevons, le monde, c'est nous, Seigneur. Et nous vivrons même la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Parce que nous serons toujours la tête et nous le Merci, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous.
Amen. Amen.
Je ne peux tout exprimer, mais je te dis simplement merci avec mes faibles mots. Tu as dit cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand tu dis, ta main l'accomplit. Et ce matin, je veux rendre gloire à ton nom. Je ne peux pas m'étaler ce matin, parce que ce que tu as fait pour nous est grand. Ce n'est pas seulement hier, mais tu as été toujours là. Et je veux en cette année te dire merci. Je te dis merci pour nous aujourd'hui. Mais je te dis merci aussi parce que nous bénéficions tous de ta grâce. De différentes manières, mais tu es présent.
Tu es présent, Seigneur.
Et ton amour est là, Papa. Tu es celui-là qui essuie les larmes. Tu es celui-là qui guérit les malades. Tu es celui-là qui ressuscite les morts. Même de nos jours, il y a des ressuscités. Et nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Que la gloire soit à toi, Père Jésus. Seigneur, tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être adoré. Pardonne-nous si nous sommes lourds ce matin. Si nous sommes peut-être un peu déboussolé par certaines situations, mais toi, ta fidélité durera toujours. Que la gloire te revienne, Papa. Bénis ton Église. Tu sais, ce matin, ceux qui souffrent dans le corps, ceux qui sont chargés, mais la solution se trouve en toi. Si tu nous as appelés à toi, ce n'est pas en vain. C'est pour que ta gloire se révèle. Et nous la voyons et te disons merci. Merci parce que nous sommes devenus tes enfants.
Merci,
nous qui étions des rebelles, égarés, perdus, nous sommes aujourd'hui appelés enfants de Dieu.
Merci.
Et nous te disons merci pour cela. Que la gloire soit à toi, Papa, au nom de Jésus.
Amen. Amen. Je crois vraiment que Dieu est ici. Que son esprit encore nous accompagne. Je l'entends à travers vos prières, vos louanges. Et je veux dire aussi merci au Seigneur. Je voudrais que ce matin, que nous puissions encore faire cette déclaration. Hier, avec le groupe des hommes, nous avons parlé du fait aussi qu'il fallait que nous puissions parvenir à témoigner de notre foi en Jésus. Et que cela était important. Et c'est vrai que ce n'est pas tous les jours évident, mais nous devons le faire. Mais chaque année, j'aime bien que nous puissions encore reprendre ce chant et qui déclare en fait cette déclaration de foi que nous croyons en Jésus, que nous croyons qu'il est le Fils de Dieu ressuscité. Et c'est important parce que beaucoup ne croient pas en Jésus ressuscité. Jésus, Fils de Dieu. Mais nous, c'est fondement de notre foi. Et nous voulons encore le dire et le proclamer. Et je sais que demain, si vous aviez quelques sujets de réticence pour pouvoir encore exprimer votre foi et témoigner de ce qu'il a fait, je sais que vous allez parvenir parce que nous avons vu aussi que c'est s'entraîner aussi, il faut s'habituer à avoir ces bonnes habitudes de pouvoir témoigner, donc petit à petit. Et déjà, on le fait déjà dans l'église, c'est lorsque nous mettons à louer Dieu publiquement. Hein? C'est vrai que c'est pas chose facile parce que nous sommes un peu timides, mais nous sommes entre nous. C'est déjà là, si nous arrivons à dire merci au Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie, témoigner auprès de nos frères et sœurs, en fait, que ce que Dieu a fait pour nous dans nos vies, là, ben, je pense que ce sera encore plus facile de le faire à l'extérieur. Je vais vous inviter encore à travers ce chant à proclamer publiquement et haut que votre foi en Jésus. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, je t'ai ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là. Présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous. Tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Amen. Nous pouvons encore le confesser, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es notre Seigneur. Tu es le Fils de Dieu. celui qui est mort et ressuscité, celui qui nous a réconciliés avec le Père, celui qui nous a donné encore accès, Seigneur, au royaume de Dieu. C'est toi qui nous as unis, éternel Dieu. C'est toi, Seigneur, qui es la réponse à toutes les questions, Seigneur, que peut se poser ce monde, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui es le Dieu tout-puissant. C'est toi qui es éternellement vivant. C'est toi qui es, qui était, qui revient, Seigneur. Alors c'est toi, Seigneur, que nous voulons encore proclamer. C'est toi que nous voulons encore confesser, Seigneur. Devant tous, c'est un adieu. Tous ceux, Seigneur, qui sont dans l'abattement, Seigneur, qui sont vraiment brisés, Seigneur, par la vie, éternel Dieu. Seigneur, tu veux les reconstruire, éternel Dieu. Tous ceux, Seigneur, qui ont commis des erreurs, éternel Dieu, tu veux les réconcilier, éternel Dieu, avec toi. Tu es disposé, Seigneur, à pardonner, éternel Dieu. Tout en toi est pardon, Seigneur Dieu. Parce que, Seigneur, tu as payé le prix de nos fautes, éternel Dieu, à la croix. Ton sang a coulé, ton corps a été brisé pour le pardon, Seigneur, de nos péchés. Alors nous savons, Seigneur, que lorsque nous revenons, Seigneur, nous nous humilions devant toi, Seigneur. Lorsque nous te confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Et personne n'est capable, Seigneur, de nous pardonner comme tu le fais, éternel Dieu. Oui, Seigneur, parce que tu es amour. Alors, Seigneur, reçois encore notre reconnaissance, reçois encore notre adoration, Seigneur, car tout est pour toi seulement, Jésus. Oh, Jésus. Je confesse devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est mon Seigneur. Je proclame devant tous les peuples, Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Aujourd'hui Dieu agit avec puissance, il répand son esprit sur ses enfants. Dieu transforme nos nations par l'intercession. Il répond à la foi de ses enfants. Nous confessons devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est le Seigneur. Proclamons devant tous les peuples, Jésus est mort pour nous, nous sommes rachetés. Aujourd'hui Dieu agit avec puissance, il répand son esprit sur ses enfants. Dieu transforme nos nations par l'intercession. Il répond à la foi de ses enfants. Je confesse devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est mon Seigneur. Je proclame devant tous les peuples, Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, tu es mort pour moi, Seigneur. Et je suis racheté, Seigneur. Vraiment, Seigneur, je veux t'adorer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne, Seigneur, d'être adoré. Parce que ton nom est le plus élevé, Seigneur. Parce que tu es celui qui ordonne et la chose arrive, Seigneur. Vraiment, Seigneur, et comment ne pas adorer un Dieu tel que toi, Seigneur, qui a tant d'amour, qui est tant d'amour, Seigneur, qui a tant de miséricorde, Seigneur, qui est plein de compassion, plein de puissance aussi. Comment ne pas t'adorer? Toi, le Dieu, Seigneur, qui a créé, Seigneur, notre terre est un Dieu, cet univers, Seigneur. Toi, Seigneur, qui nous donne, Seigneur, le souffle de vie, qui peut reprendre aussi ce souffle de vie. Comment ne pas t'adorer? Dieu de gloire, je t'adore, ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne être agneau de Dieu, digne être agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton Saint-Nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres. Je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame La beauté de ton Saint-Nom, Dieu de gloire. Amen, 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 amen. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Acte 20, verset 32. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur.
Bonjour bien-aimés. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu pour la vie. Il est le Dieu de la vie, n'est-ce pas? Tout ce qui a un souffle de vie vient de Dieu. Certes, la vie n'est pas toujours facile, mais il est le Dieu de la vie. La Bible dit qu'il veille sur sa création. Que malgré le sentiment qu'on peut avoir que Dieu n'est pas là dans des moments difficiles, la Bible dit que Dieu sait tout et qu'il voit tout et que tout est sous son regard. Après, il est vrai que nous sommes aussi en responsabilité en tant qu'êtres humains. Dieu nous a créés, n'est-ce pas, avec une intelligence qui certes est invitée à dépendre de lui, mais il nous a donné très tôt une autonomie. Et ce que Dieu souhaite, ce que Dieu désire, c'est que cette autonomie, justement, reste sous son regard bienveillant. Et ce n'est pas ce que nous faisons tout le temps. Et c'est justement là l'œuvre du Christ, n'est-ce pas? Cette proclamation du Christ ressuscité est là pour nous rappeler que Dieu a payé le prix pour que justement ce regard bienveillant puisse être celui qui nous guide dans un monde où il y a tellement de souffrances, où il y a tellement de besoins. Et notre société française en fait les frais depuis quelques années, n'est-ce pas? Mais Dieu veille sur nous. Dieu veille sur nos nations. Dieu veille sur son monde. Dieu veille à ce que le bien continue d'être le bien. Dieu veille à ce que, malgré les difficultés, les situations compliquées, qu'il y ait de l'espoir. La Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Notre espérance est en Christ. Et j'aimerais continuer ce dimanche avec un livre de l'Ancien Testament que nous avons abordé dimanche dernier pour montrer, en tant que chrétiens évangéliques, nous aimons régulièrement professer que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et parfois, je réalise que peut-être c'est une confession juste. Comment dire? On va dire que c'est une bonne civilité. Nous le disons parce que nous sommes habitués à le dire. Et je me demande, est-ce que nous y croyons vraiment quelquefois? Est-ce qu'il est le même qui a fait des choses hier avec Daniel? Si c'est vrai, c'est qu'il est capable de les faire encore aujourd'hui. Et pour montrer qu'il n'y a pas qu'avec Daniel qu'il a fait, on va voir quelques autres exemples dans ce même livre où il a été aussi capable de faire des choses. Et je vous avais proposé justement, vas-y Sarah, que nous puissions être en train de réfléchir en ce début d'année sur ces projets. C'est des thèmes, mais pas des thèmes, c'est un projet de vie. C'est un roi, un empereur païen en l'an 605 avant Jésus-Christ qui proclame cette phrase et qui la proclame devant un croyant. Puisse ton Dieu que tu sais avec tant de persévérance te délivrer lui-même. Il y a plus plus de 2600 ans que cette phrase a été proclamée. Et la phrase qui suit, qui est un souhait, elle a été proclamée il y a à peu près 2000 ans par l'apôtre Jean, qui était dans l'âge très avancé et qui a écrit ce qu'on appelle les lettres, les épîtres de Jean. Dans sa troisième épître, il s'adresse à un bien-aimé, à un chrétien qui s'appelle Gaius. Il dit à Gaius, « Toi, mon bien-aimé que j'aime dans la vérité, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé spirituelle. » Et j'avais dit que c'est mon vœu et c'est ma prière pour chacun d'entre nous en ce début de l'année 2020. Que le Dieu que nous proclamons, que nous avons encore chanté ce matin, qui est le Dieu vivant, qu'il puisse être là avec nous, nous qui persévérons, pour justement voir les grandes choses qu'il fait, les œuvres de sa délivrance, mais aussi voir comment il nous conduit à prospérer, d'abord dans notre communion spirituelle, n'est-ce pas? Et j'avais indiqué que Jésus disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses. Dieu sait que vous en avez besoin. Et dans l'évangile de Luc, il disait que certes il est un homme de gagner tout l'univers s'il perdait son âme. Que peut donner un homme pour racheter son âme? Il y a un seul qui a payé le prix de nos âmes. Il s'appelle Jésus. Et c'est lui que nous avons célébré ce matin. Alors regardons, jetons un regard dans ce passé qui est un passé vivant. Regardons ce texte dans cette invitation, cette évocation de ces hommes qui ont bel et bien existé. On les situe autour de 605 avant Jésus-Christ. C'est là que cette histoire a pris ancrage et nous voulons regarder cela avec respect mais aussi avec simplicité. Parce qu'il est dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, que ces gens-là étaient de la même nature que nous. N'est-ce pas? Daniel, chapitre 3, à partir du verset 12. On lit le verset 12 parce que du verset 1 au verset 10, il y a tout un contexte. Hein. Le contexte, c'est que le roi, dans certaines versions, c'est écrit Nebuchadnezzar, et dans d'autres versions, c'est écrit Nebuchadnezzar. Hein, c'est juste des traductions, mais c'est le même personnage. Il est dit qu'à un moment donné de son règne, à l'issue d'un songe qui lui a été interprété, il a décidé d'ériger une statue à son effigie. Et il a décidé, empereur tout puissant qu'il était, que tous ses habitants de son royaume se prosternent devant ces statues-là. Et de façon symbolique, il a convoqué tous ses hauts fonctionnaires, tous ses hauts dirigeants, pour venir dans la ville, dans cette ville particulière, pour faire cette célébration. Et nous avons rappelé que de ces hauts dignitaires, de ces administrateurs, il y avait quatre personnages qui n'étaient pas des Babyloniens, qui étaient issus du peuple d'Israël, qui avaient été déportés parce que Jérusalem, Israël avait été vaincu, et que ces trois, plus Daniel, avaient très tôt, à l'âge de 16 ans, été déportés dans cette empire qui n'était pas leur territoire et qu'ils avaient été invités à s'instruire, à se former pour être des administrateurs et que suite à cette formation, on avait vu en eux des qualités professionnelles, mais bien plus des qualités éthiques et morales. Et on avait vu en eux qu'ils n'avaient pas régné le Dieu qu'ils connaissaient et qu'ils refusaient d'adorer les dieux païens de ce territoire. Alors, quand le roi a fait cette convocation, Daniel n'était pas présent, certainement qu'il était en mission très loin, mais ses trois autres compagnons, qu'on a nommés Shadrach, Meshach et Abednego, étaient présents. Et alors que tout le monde s'est prosterné devant ces statues qui représentaient le dieu Nebuchadnezzar, ces trois ont refusé de se prosterner devant ces statues. Et c'est là que vient le verset 12. Et c'est les accusateurs, justement, qui vont voir le roi pour accuser ces trois-là. Et ils disent, or, il y a des hommes de Juda auxquels tu as confié l'administration de la province de Babylone, à savoir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes-là ne t'ont pas obéi au roi. Ils n'adorent pas tes dieux et ne se prosternent pas devant les statues d'or que tu as fait ériger. Alors, Nebuchadnezzar s'irrita et entra dans une grande colère. Il ordonna de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. On les amena donc devant le roi. Celui-ci prit la parole et leur demanda, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous n'adorez pas mes dieux et que vous ne vous prosternez pas devant les statues, la statue d'or que j'ai érigée ?» Maintenant, si vous êtes prêts, au moment où vous entendrez le son du cor, du filtre, de la cithare, de la lyre, de la harpe, de la double flûte et de toutes sortes d'instruments de musique, prosternez-vous et adorez la statue que j'ai faite. Si vous refusez de l'adorer, vous serez jeté aussitôt dans la fournaise où brûle un feu ardent. Et quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mes mains? Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi, « Ô Nebuchadnezzar, il n'est pas nécessaire de te répondre sur ce point. Si le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise où brûle un feu ardent, ainsi que de tes mains, ô roi, qu'il nous délivre. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. » Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur contre Shadrach, je suis au verset 19, contre Shadrach, Meshach et Abednego. Et son visage devint blême. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Puis, il commanda à quelques soldats vigoureux de sa garde de ligoter solidement Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente chauffée. Aussitôt, les trois hommes furent ligotés, tout habillés avec leurs pantalons, leurs tuniques et leurs tubans, et jetés dans la fournaise où brûlait un feu ardent. Mais comme sur l'ordre du roi, on avait fait chauffer la fournaise au maximum, les flammes qui en jaillissaient firent périr les soldats qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quant à Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent tous les trois ligotés au milieu de la fournaise où brûlait le feu ardent. C'est alors que le roi Nebuchadnezzar fut saisi de stupeur. Il se leva précipitamment et s'adressant à ses conseillers, il demanda, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes tous ligotés dans le feu ?» Il répondit au roi, « Bien sûr, majesté. » « Eh bien, reprit le roi, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu sans subir aucun dommage corporel. Et le 4e a l'aspect d'un fils de Dieu. » Puis Nebuchadnezzar s'approcha de la porte de la fournaise où brûlait un feu ardent et se mit à crier, « Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez de là et venez ici. » Alors Shadrach, Meshach, Abednego sortit du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient pas été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Alors Nebuchadnezzar s'écria, « Loué soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Ils ont préféré risquer leur vie plus que de se prosterner et d'adorer un autre Dieu que le leur. » Voici donc ce que je décrète. Tout homme, de quelque peuple, nation ou langue qu'il soit, qui parlera d'une manière irrespectueuse du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas de décombres, parce qu'il n'existe pas d'autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes. Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Babylone. Amen. J'aime toujours rappeler que ce n'est pas une légende, que ce n'est pas un conte de fées. ne sont pas dans une histoire inventée. Nous avons des éléments qui attestent de l'historicité de ce texte. Les noms des empereurs, les lieux cités, les personnages cités ont bel et bien existé à cette période. Ce récit biblique est un récit vrai. Ces façons de faire, ces us et coutumes sont bien et bien avérées dans l'empire babylonien de cette époque-là. On les accuse de quoi exactement? Voici des jeunes hommes arrivés à 16 ans dans un pays qui n'est pas le leur, arrachés à leur Dieu, contraints d'avoir des coutumes qui ne sont pas les leurs, qui acceptent dans la généralité de vivre dans ce nouveau monde, mais qui refusent d'adorer les dieux qui ne sont pas des dieux. Parce que très tôt, comme c'est la coutume en Israël, dès que l'enfant a l'âge de la connaissance et de la raison, on lui enseigne la parole de Dieu. N'est-ce pas? Et on a ce texte fameux que nos monitrices aiment à nous répéter, « Instruis l'enfant dès son jeune âge. » De sorte que lorsqu'il grandira, il ne s'éloignera pas de la loi de Dieu. Ces jeunes ont été instruits très tôt et à 16 ans arrachés brutalement à leur famille, à leur contrée et à leur Dieu. Oui, ils étaient jeunes. Et malgré leur jeunesse, quand on lit le chapitre 1 de Daniel, ils se sont positionnés clairement pour leur Dieu. Ils ont très tôt refusé tout ce qui était idolâtrie dans leur formation. C'est comme s'ils disaient, on a bien compris, on n'est plus chez nous. Donc de toutes les façons, on n'a pas le choix. On est dans un nouveau contexte. On va vivre ce contexte-là, mais la seule chose que nous ne ferons pas, c'est d'oublier notre Dieu et d'adorer d'autres dieux. Ils ont grandi avec cette force d'attachement à leur Dieu. Ils ne sont plus des jeunes gens, ils sont maintenant des adultes, puisqu'ils sont en fonction administrative, c'est des adultes. Et on les attaque sur quoi? Si vous lisez le texte, on les attaque pas sur leur probité professionnelle. On ne les attaque pas sur des faits de corruption, sur des faits de moralité. On les attaque sur leur attachement à leur Dieu. Ce qu'on savait déjà, puisque dans leur parcours, ils se sont toujours positionnés pour leur Dieu. Et on les attaque. Vas-y, mets la diapo, s'il te plaît. On les accuse. Les compagnons de Daniel sont accusés. C'est de bons administrateurs, ils ne t'ont jamais volé, ils font bien leur travail, c'est des citoyens modèles, mais ils refusent d'adorer tes dieux. Et vu que tu t'es érigé en Dieu avec ces statuts, ils refusent de t'adorer toi aussi. Ces statuts que Nabucodonosor a érigés, le sens politique et religieux de ces statuts, c'est de dire: moi, Nabucodonosor, je suis le dieu de tous les dieux de Babylone. Je suis le dieu au-dessus des dieux que vous, mon peuple babylonien, vous croyez. C'est moi, le seul et le tout-puissant. Voilà les faits d'accusation. Et quand on lit bien Nabucodonosor, qui a certainement, en tant qu'empereur, demandé des informations sur ces trois, se rend bien compte que c'est des gens qui ont une probité incroyable. Donc, il leur donne une seconde chance. Il aurait pu juste, à l'annoncer de l'accusation, les condamner. Mais il dit, faites-les-moi venir. Parce que quand même, ces jeunes gens, ces adultes, ces personnes, en tant qu'empereur, j'ai eu des informations que c'est des gens qui ont une moralité, qui sont bien dans la société. C'est des citoyens modèles. Mais je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas se prosterner devant ces statues. Il est fait venir pour leur donner une seconde chance. La diapo d'après, s'il te plaît. Et c'est ce que je disais. Parce qu'il se considère au-dessus des dieux, il dit une phrase qui est très forte. lorsqu'il les fait venir et que les jeunes, enfin ces adultes maintenant disent, on n'a même pas besoin de te répondre sur cette question, roi, parce que notre position pour notre Dieu est connue dans cette nation. Donc sache, ô roi, avec l'expression ô roi, ça veut dire qu'ils avaient de la référence pour ce roi, ils le respectaient. Mais il dit avec tout le respect qu'on te doit, on ne peut pas adorer tes dieux et nous prosterner devant ces statues. Parce qu'il n'y a que ceux. Et c'est le deuxième commandement dans le décalogue. Tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. C'est le deuxième commandement dans les 10. Et dans Deutéronome chapitre 6, verset 4, il y a ce qu'on appelle le credo des âges. Sache, Israël, sache que l'Éternel est un. Qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est l'Éternel. Ils ont grandi avec ça. Ils connaissent ça. Et c'est ce qu'il dit ici au roi. Ils redisent le deuxième commandement. Nous ne pouvons adorer qu'un seul Dieu. Il s'appelle Yahweh, l'Éternel, le Dieu vivant. Et fort de cette déclaration, il dit, vous allez voir qui est le vrai Dieu. Vous allez voir. Je vais vous punir de la punition que j'ai dit que j'allais exécuter pour tous ceux qui ne se prosternent pas, et vous verrez quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains. Parce que moi, Nebuchadnezzar, je suis le Dieu au-dessus de tous les dieux. C'était ce défi-là. Donc, au-delà d'un défi sémantique, c'est un défi entre un Dieu qui s'appelle Nebuchadnezzar et le Dieu d'Israël. Et ce n'est pas Dieu qui a pris ce défi. C'est Nebuchadnezzar qui a pris ce défi. Contre des enfants de Dieu. Contre des enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Vas-y, s'il te plaît. Ils ont cette déclaration incroyable. Leur confiance est absolue en leur Dieu. Quand je lis ce texte, je fais l'effort de me dire, non, c'est une vérité vraie puisque c'est la parole de Dieu. Ce royaume, ils sont administrateurs dans ce royaume, ils savent la cruauté des menaces que ce royaume a l'habitude de faire à ses ennemis. Donc, ils sont bien informés que c'est un vrai danger, que leur vie est en jeu et que ces châtiments ont été déjà appliqués dans cet empire. Donc, ils savent bien ce qui les attend. Puisque la fournaise ardente, on ne l'a pas fabriquée là pendant qu'ils avaient désobéi. On dit qu'elle était déjà là. Donc, c'était un moyen de punition des ennemis de l'empire. Donc, ils le connaissent puisqu'ils sont administrateurs. Ils savent le danger. Et malgré ça, notre Dieu que nous servons, il reconnaissait que l'autorité de Dieu était plus grande que l'autorité revendiquée par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar. Bien qu'ils avaient été employés par le roi, ils étaient au service de leur Dieu. Et ils disent, oui, le Dieu que nous servons, il est capable de nous délivrer. Parce que ça fait bien longtemps que nous sommes dans cet empire et il a pris soin de nous jusqu'à ce jour. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va se dédier. Mais sache que même si nous mourions aujourd'hui et qu'il ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi. Et nous n'adorerons pas les dieux de Babylone. Vas-y, s'il te plaît. Aujourd'hui, on peut se dire, il n'y a plus de statues. Il n'y a plus de divinité. Autant, on dit premier siècle, mais un peu avant, il y avait ce qu'on appelait le panthéon des dieux grecs, hein, avec toutes les déesses et tous les dieux qu'il y avait. Il y avait des statues et les gens se prosternaient. Aujourd'hui, on peut dire, nous, on n'a plus ces statues, on ne se prosterne pas. Mais quelqu'un qui s'appelle Timothy Keeler fait cette réflexion, c'est un américain. Il dit, aujourd'hui, quelles sont les idoles qui ont remplacé ces statues? Il dit, il y en a quelques-unes quand même. Il a cité plusieurs, moi j'en ai pris trois. Il parle d'Aphrodite, la déesse de la beauté. Et il dit, nous ne nous prosternerons pas physiquement devant une statue d'Aphrodite, mais de nombreuses jeunes femmes aujourd'hui, poussées à la dépression et aux troubles alimentaires par le souci obsessionnel de l'image. Ça s'appelle l'anorexie. Même au-delà de l'anorexie, aujourd'hui, il y a un focus sur la beauté, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. Et parfois, on ne voit pas tout le dégât que ça fait. on n'est pas tous ces canons de beauté que la société veut tellement dire, voici la vraie beauté. Est-ce que ça existe une vraie beauté? Non. La Bible dit que Dieu a fait de moi une créature merveilleuse. Que chacun de nous a été créé comme une créature merveilleuse. Alors pourquoi notre société se force à mettre des canons de beauté qui deviennent comme une idole? Les hommes et les femmes sont omnibulés. On a l'impression qu'on se prosterne tous et qu'on veut tous ressembler à ces canons de beauté. Et quand on n'y arrive pas, des dépressions. On n'est pas bien. Parce qu'on n'est pas comme. Mais tu n'es pas comme, tu es toi. Et Dieu t'aime comme tu es. Dieu dit, viens à moi tel que tu es. Qui de nous a la force de décider de comment son visage va être quand ses parents vont l'enfanter? On n'a pas de pouvoir sur ça. Et pourtant, Dieu dit au prophète, quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Artémis, déesse de la fécondité et de la richesse. Nous ne brûlons pas d'envie devant l'image d'Artémis, mais quand l'argent et la carrière prennent des proportions incommensurables, nous accomplissons une sorte de sacrifice d'enfant en négligeant nos familles et nos communautés afin d'arriver en haut de l'échelle financière professionnelle. Parce que Artémis, à ce dieu-là, on sacrifiait des enfants. Faisait des immolations des enfants à Artémis. Et il dit, aujourd'hui, on n'égorge pas physiquement nos enfants et nos familles, mais parfois, des carrières professionnelles, le désir d'être à un certain niveau de bien-être social, finalement, on sacrifie plein de choses. Et combien de fois certains ont dit, ah, ouais, j'ai sacrifié tellement de choses. C'était juste, c'était peut-être légitime, mais j'ai, comme le disent entre griffes, ça a cassé mon foyer. Ça a détruit mon couple. Ça m'a séparé de mes enfants. Est-ce que ça valait la peine? Je ne dis pas, entendons-nous bien, que gravir les échelons professionnels ne sont pas la volonté de Dieu. C'est tout à fait la volonté de Dieu. Dieu veut que chacun de nous gravisse, je l'ai dit. Et on voit dans le texte, il dit quoi? Il dit que Daniel prospéra. Il dit quoi? Il dit que le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego. Donc ils ont prospéré. Mais c'est toujours, quelle est la priorité? Est-ce que c'est toujours mon Dieu ou c'est la richesse? C'est pour ça que Jésus dit, l'argent n'est pas un Dieu, mais l'amour de l'argent. L'amour éperdu, sans limite, sans contrôle, pour une richesse, pour la richesse, est un Dieu qu'il appelle maman. Mais ce n'est pas l'argent qui est maman. C'est cette forme d'attachement sans réflexion. Cette course effrénée à la richesse, sans réflexion, comme Artémis. Héphaïstos, le dieu des artisans, le dieu succès. Ils ont tout sacrifié au dieu du succès. Notre société produit une classe d'individus professionnellement très performants, déséquilibrés sur le plan personnel. Ils sont socialement compétents pour améliorer position avec leur mentor et leur patron, mais tristement incompétents en relation profonde et réelle avec leurs conjoints, leurs amis et leurs familles. On ne culpabilise personne, mais ce n'est pas nous qui le disons. Les statistiques, pas forcément en France, mais aux États-Unis, sont alarmantes. Toutes les grandes fortunes ont malheureusement des vies brisées familiales. Et on se demande bien pourquoi. Et on se demande bien pourquoi. Que nous sommes invités à réussir pour avoir une aisance sociale, Dieu le veut, mais pas au sacrifice, pas au détriment de notre relation avec lui et du bien-être de nos familles. Sinon, ça devient une idole, sans qu'on s'en rende compte. Sans qu'on s'en rende compte. Le succès et la richesse sont définis par Dieu. Et si nous sommes invités à le faire, nous devons le faire dans le cadre de ce que Dieu nous montre dans la parole de Dieu. Et il a bien montré ces choses dans la parole de Dieu. Combien de succès, combien d'échecs ont été mal vécus. Parce que justement, il y a tellement de critères de succès dans la société. Et quand on n'y arrive pas, on est détruit, on est brisé parce qu'on dit, je n'ai pas réussi. Et finalement, c'est quoi réussir sa vie? Combien de gens ont réussi socialement et ont été brisés familialement? Combien de riches ont dit, j'ai beaucoup de choses, mais je ne sais pas avec qui partager? Parce qu'il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'enfants, ils sont tous partis. Et pourtant, dans le même sens, il y a des gens ordinaires, il y a des gens riches qui ont Dieu et qui le vivent bien. Amen. Donc c'est la question de qui est la priorité dans ta vie. Questionne-toi. Réfléchis à ces choses. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait. Ils étaient dans une position élevée, mais ils ont dit, notre priorité, c'est toujours notre relation avec Dieu. Là, on va tout perdre, même on va perdre notre vie. Mais notre relation avec Dieu. Parce que l'apôtre Paul dira, si notre espérance est que pour les choses de la terre, nous sommes bien malheureux. Parce que notre vie ne s'arrête pas ici. Elle continue après. Où seras-tu après ici? C'est la question. Vas-y, s'il te plaît. Le monde aussi. Parce que généralement, quand on parle de la question de l'idole, on sort souvent des versets et j'aimerais nous expliquer ces versets. Parce que nous sommes dans le monde, nous sommes des êtres humains et nous avons besoin de vivre dans ce monde. Et ça, il faut bien être équilibré sur ces questions-là. Shadrach, Meshach et Abednego étaient bien dans leur société babylonienne, ils y vivaient. Par contre, ils avaient des valeurs. Okay? Et parfois, on dit n'aimez pas le monde. Mais qu'est-ce que ça veut dire n'aimez pas le monde? Est-ce que ça veut dire ne pas aimer le monde physique, le monde créé? Non, parce que ce monde, c'est un monde, c'est Dieu qui l'a créé. Dieu en prend soin. Hein, je vous ai donné quelques illustrations là. Hein, c'est un monde entier créé par Dieu, les cieux et la terre sortis de ses mains. Il est aux yeux de tous les hommes une démonstration de la perfection visible de Dieu, suffisante pour établir leur responsabilité. Dieu a créé le monde physique, le monde physique. Quand nous regardons tous ces beaux paysages, nous sommes émerveillés, n'est-ce pas? C'est la création de Dieu. C'est pas de ce monde-là que la Bible dit de se méfier, non. Parce que cette création, elle est de Dieu. Nous devons en prendre même soin, n'est-ce pas? Selon ce qu'il a dit à Adam dans le jardin d'Éden. La deuxième conception du monde, c'est le monde humain. Donc nous, les êtres humains, on nous appelle aussi le monde, n'est-ce pas? Les chrétiens, le chrétien, nous appartenons à ce monde. Nous sommes des êtres humains. Nous ne pouvons pas nous dissocier de l'humanité. Là, Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jean chapitre 17, il dit, je ne te demande pas de les retirer du monde, parce qu'ils vivent dans le monde. Ils sont des humains. Mais je te demande de les protéger dans le monde, de les garder. De prendre soin d'eux dans le monde. Et ce monde-là, des êtres humains, au contraire, Dieu l'aime, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on dit le monde ici, c'est l'humanité. Dieu a tant aimé l'humanité. Dieu aime notre humanité. Dieu nous aime. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme sur les méchants, parce qu'il nous aime. Il dit ce qu'il veut, c'est pas que le méchant reste dans sa voie, mais que le méchant comprenne et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Il nous est apparu un jour et nous a montré que nous étions sur le mauvais chemin. Et nous a fait la grâce de nous détourner et de marcher sur le bon chemin. C'est ce qu'il fait avec tous les êtres humains. Donc ce n'est pas ce monde-là que Dieu dit de ne pas aimer. La troisième conception, c'est le monde mauvais. Et c'est celui-là auquel le chrétien ne doit pas s'associer, n'est-ce pas? C'est ce monde, ce milieu où règne le mal depuis la chute. Où désormais la mort aussi règne. La Bible dit que tous les pécheurs vivent selon le train de ce monde, n'est-ce pas? Qui est tout entier, c'est la conception mauvaise qui éloigne de Dieu, qui évacue Dieu, qui évacue les valeurs de Dieu. La Bible dit que cette conception-là, que cette façon de concevoir le monde, est sous l'autorité du diable, parce que c'est le diable qui aime faire ça, n'est-ce pas? Et la sagesse de ce monde-là, cette façon de réfléchir de ce monde, n'est pas la sagesse de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Alors qu'on n'est pas dans la crainte de Dieu, au contraire, n'est-ce pas? Et l'esprit de ce monde, c'est un tout autre esprit. Ce monde va plus loin, n'est-ce pas? Il a haï ouvertement le Christ. Il a rejeté le Christ. Il a crucifié le Christ et ses disciples. Et nous devons être vigilants sur cet aspect de ce monde-là. Et c'est là que nous devons nous positionner. C'est là que nous devons nous positionner. La diapo d'après, s'il te plaît. C'est là que nous devons nous engager. C'est là que nous devons faire de bons choix. Parfois, nous avons besoin de prendre nos distances. Comme Shadrach, comme Meshach, comme Abednego. Comme Jésus, nous sommes présents dans ce monde. Toutefois, nous avons des choix. Et nos choix doivent être orientés par la parole de Dieu, par la Bible. C'est elle qui est notre boussole. C'est elle qui nous oriente. Est-ce ton cas, mon frère? Est-ce ton cas, ma soeur? Est-ce que constamment, c'est ce livre, c'est cette parole de Dieu qui oriente tes choix, tes décisions, tes valeurs, tes positionnements dans la société? Le chrétien est appelé à se distinguer positivement. Nous ne sommes pas de super hommes ni de super femmes. Ce n'est pas ça qu'il s'agit. Nous sommes des hommes et des femmes, la famille de Dieu. Et nous avons des valeurs dans notre famille de Dieu. Elles nous sont montrées par la parole de Dieu. Et c'est de cette distinction que parle la parole de Dieu. Pourquoi nous devons faire cette distinction? Pour attirer les hommes à Dieu. Pour qu'ils voient l'amour de Dieu en nous. On fait des choix. On refuse ce qui n'est pas conforme à Dieu dans ce monde. Ce qui n'est pas conforme à l'enseignement de Dieu. Nous sommes invités à nous positionner. Dans nos vies individuelles, dans nos vies de couple, dans nos vies familiales, du moins, nous sommes invités à nous positionner dans les valeurs de Dieu. Et nous sommes invités par la force de l'Esprit de Dieu à faire des efforts. De nous souvenir que les mauvais choix ont des conséquences tragiques et que ces mauvais choix nous éloigne un peu de Dieu, mais nous font plus de mal que de bien. Quand on fait la somme de ces mauvais choix, elles font toujours plus de mal que de bien. Même si, quand on les fait sur le moment, on a l'impression que ça nous fait du bien, mais quand on fait l'addition, on se rend compte qu'elle est bien salée. Il faut s'en souvenir. Donc, être présent avec les valeurs de la Bible. Comprendre que la Bible ne nous propose pas une vie d'obligation. Il ne faut pas concevoir la parole de Dieu comme ça. La parole de Dieu, ce n'est pas « tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça ». Non, la Bible, c'est ton projet de vie. Dieu dit « j'ai mis à cause du péché, le bonheur et le malheur sont là. Mais je t'en supplie, choisis le bonheur, choisis la vie. » C'est un projet d'amour. Ce n'est pas un projet d'obligation. Si tu vis la foi chrétienne comme une obligation, demande à Dieu de te changer la façon de faire. Remets ça en cause et dis non, c'est pas ce que tu as pour moi. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie d'obligation. Elle est une vie d'adhésion à des valeurs d'amour qui certes nous demandent de faire des choix. Mais ce n'est pas toujours des choix tu ne feras pas, c'est des choix tu feras. Quand la Bible dit aime ton prochain, bah c'est une belle obligation. Moi, j'aime cette obligation d'aimer mon prochain. Moi, j'aime cette obligation d'aimer ma femme. J'aime cette obligation d'aimer mes enfants. J'aime cette obligation d'aimer mes frères et mes sœurs, de ne pas leur faire du mal. J'aime cette obligation-là. J'aime être obligé de ne pas faire du mal à mon prochain. Si c'est ça l'obligation dont on parle, je veux bien cette obligation-là. Je veux bien cette obligation-là. On termine avec la diapo. Que Dieu nous aide, bien-aimés. Nous sommes au début d'un défi de 360 et quelques jours avec Dieu. Prenons garde et veillons à ne pas négliger le devoir que nous avons en tant que chrétiens de nous instruire et de nous éduquer par la parole de Dieu avec autorité et rigueur. Ça veut dire, en des mots plus convenables, essayons de garder la Bible comme notre autorité. Essayons de nous donner l'obligation de la méditer, de l'étudier. Si on n'arrive pas tout seul, l'Église a créé des créneaux pour qu'on le fasse ensemble. C'est les mardis, c'est les dimanches. Efforçons-nous au moins d'être là pour être instruits et apprendre, à grandir dans cette parole. Veillons et gardons-nous à ne pas mépriser la vérité de la parole, à ne pas la reléguer à un second plan. Veillons à faire d'elle notre priorité devant toutes les charges, les ressources de la vie actuelle. Que la parole de Dieu soit ton autorité, parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit. nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux et devant ces statues. Parce qu'il nous est demandé d'adorer un seul. Il s'appelle l'Éternel des armées. Le Dieu vivant qui s'est révélé en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et c'est un projet de bonheur, bien-aimé. Ne serait-ce si on se dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est dit à la fin de ce chapitre 3, au verset 30, « Ensuite, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. » Dieu veut que tu prospères, mon bien-aimé. Dieu veut que tu avances dans la vie. C'est son projet pour toi. Il veut te soutenir dans ce projet-là. Si tu es venu à la foi chrétienne, si tu as donné ton cœur à Dieu, si tu as reconnu que tu es pécheur et que tu t'es tourné vers Dieu, Dieu prend l'engagement de t'accompagner, de te soutenir, de te porter. Ton cadre à toi, pas comme pour l'autre. Chacun de nous, selon la mesure de foi, Dieu nous accompagne dans les projets, comme on dit, personnalisés. Le projet de Dieu pour moi n'est pas le même pour toi. Mais c'est le même dans le sens où il veut que tu prospères. Pas de cette prospérité qui est cette richesse en abondance, mais de cette prospérité qui te donne déjà la paix du cœur. La paix dans ton couple, la paix dans ta famille, la joie de la vie malgré les situations et les événements. C'est de cette prospérité-là qu'il s'agit. Et ensuite, les choses de la vie, il est là aussi pour t'accompagner, pour que tu les acquiers. Il a fait de même pour Daniel, on l'a vu dimanche dernier. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous celui de Cyrus. Sous deux empereurs, il a prospéré. Daniel chapitre 6, verset 29. Donc c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même qui a souhaité, qui a fait en sorte que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel prospèrent, il est le même aujourd'hui. Il est le même aujourd'hui. Et c'est pour cela que Jean peut dire dans la troisième lettre, moi l'ancien, à mon bien-aimé, cher Gaius que j'aime dans la vérité, cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards. Cher bien-aimé, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Que nous continuions d'être des chrétiens ancrés dans la parole, marchant avec la valeur, avec les valeurs de la parole de Dieu, de la Bible. Et nous verrons comment Dieu prend soin de nous. Prions. Te bénissons, Seigneur. Merci pour ta grâce, pour ta présence. Merci pour ce début d'année. C'est vrai qu'on dit communément que c'est le moment des résolutions. Nous ne voulons pas le voir comme le moment des résolutions. Nous voulons le voir comme le moment où nous nous réengageons avec toi, Seigneur. Où nous reprenons notre engagement avec toi. Parce que toi, ton engagement avec nous, il est éternel. La Bible dit que tu ne te dédies pas, que ce que tu as acquis, ce que tu as dit, reste vrai pour toujours. Et tu dis que tu nous aimes et que tu as un projet de bonheur et non de malheur. Merci, Seigneur, de nous conduire dans ce projet de bonheur. Saint-Esprit, donne-nous la force de faire notre part, de rester des chrétiens et des chrétiennes à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus.